Et cette semaine, on va revenir avec lui sur la situation à Rafah, sur fond de crispation américaine et égyptienne, bien sûr. Voilà Daniel Haber qui répond aux questions toujours pertinentes de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Nous sommes lundi matin et comme chaque lundi matin, eh bien nous conversons autour de la géopolitique mondiale et plus précisément depuis le 7 octobre sur la géopolitique au Moyen-Orient. Alors cette semaine, ce qui a beaucoup marqué, c'est les opérations à Rafah. Alors pour commencer, Daniel Haber, Israël se prépare à attaquer. Cela entraîne tout de même des crispations américaines et égyptiennes.
Bien sûr, bien sûr. Rafah, c'est pas seulement un symbole, c'est une réalité très forte. C'est le bout du Gaza, c'est la fin au fond des opérations militaires qui ont été magnifiquement planifiées par Tsahal, commencé par le nord, le centre, le sud, Khan Younes. Maintenant, c'est Rafah, c'est la fin. Rafah, c'est sur la frontière égyptienne et on voit bien que les objectifs d'Israël se heurte maintenant à un certain nombre de contingences, un certain nombre de problèmes qui se posent aussi bien du côté américain que égyptien. Quel est l'intérêt d'Israël pour attaquer Rafah? Il est hautement stratégique. C'est d'abord parce que pour Israël, il est vital, existentiel d'obtenir une victoire sur le Hamas. Et cette victoire, elle doit être suffisante, visible aux yeux des ennemis comme des amis d'Israël. Donc il ne s'agit pas forcément d'éradiquer le Hamas, ce que au fond Israël n'a jamais dit, mais il s'agit d'obtenir une vraie victoire. Elle est nécessaire parce que Israël a mis un genou à terre le 7 octobre et elle a montré sa vulnérabilité et rien ne peut s'organiser dans la suite des opérations sans que Israël ait retrouvé sa crédibilité, qui d'ailleurs est la même que celle de la crédibilité des Américains. C'est pour ça que les Américains disent beaucoup de choses, mais continuent à aider totalement Israël. Donc, si vous voulez, pour Israël, Rafah, c'est totalement stratégique et existentiel, alors que pour l'Occident, notamment les Américains, au fond, ce qui est important pour eux, c'est la fin rapide des opérations, alors que Rafah risque de prendre un petit peu de temps. Il y a la campagne électorale. Si vous regardez du côté européen, la France notamment, elle a ses Jeux Olympiques au mois de juillet. Donc, ils ont tous envie que tout ça soit derrière eux. Alors qu'Israël, lui, a la nécessité de prendre le temps d'obtenir cette victoire suffisante et forte. Et Rafah, quand on regarde bien, aujourd'hui, c'est là que sont certainement les dirigeants du Hamas. C'est là qu'il y a la plus grande partie des otages qui sont encore vivants. Mais c'est aussi là que Israël doit déjà organiser l'après-guerre, parce que cette frontière avec l'Égypte, on découvre aujourd'hui qu'elle a été extraordinairement poreuse, que ce qui est entré dans Hamas, c'était pas le résultat d'une petite contrebande, d'une petite corruption avec quelques douaniers égyptiens. C'était massif. Ça a permis au Hamas de s'armer puissamment, ça a permis au Hamas de construire plusieurs fois le métro parisien, comme on l'explique. Donc ça n'a pas pu arriver sans que le gouvernement égyptien laisse faire. Et donc la question, c'est pourquoi a-t-il permis cela? Quelle crainte il avait? Quelle négociation? Vous voyez, ça pose des questions déjà étonnamment géopolitiques. Donc voilà pourquoi il y a cette crispation autour de Rafah, parce que c'est très très important sur tous les plans.
Alors, Daniel Haber, au final, à part l'opération militaire, que se joue réellement à Rafah?
Ben c'est l'après, ce qu'on appelle le jour d'après. Et en réalité, il y a trois objectifs de négociation et trois objectifs au fond géopolitiques auxquels il faudra répondre et qui s'imbriquent, hein. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait de Gaza une fois que les opérations militaires sont terminées. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait pour régler, comme disent les Américains, définitivement la question palestinienne. Et troisièmement, comment on organise l'avenir du Moyen-Orient autour d'une alliance ou d'un partenariat entre Israël et tous les pays arabes sunnites, donc la reprise des négociations avec l'Arabie saoudite, et quel type de garantie l'Amérique donnera-t-il à cette organisation? Vous voyez, c'est ces trois objectifs qui s'imbriquent. pour Israël, les trois sont importants en même temps. Et alors que les Américains, eux, sont pressés de résoudre la question palestinienne, ils sont même prêts, ont-ils dit, à reconnaître un État palestinien, ce qui est une folie stratégique. Les Israéliens disent non, le timing, c'est pas celui-là. C'est nous, on a besoin encore de temps pour rester à Gaza militairement, pour organiser la fin de la sécurisation du terrorisme à Gaza. Il faut que ça soit fini. Faut pas seulement que les Hamas partent, mais faut pas qu'ils reviennent ou que d'autres reviennent. Donc il faut détruire les tunnels et il faut faire une frontière égyptienne et Gaza. Complètement étanche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est la priorité. La deuxième, c'est pas l'État palestinien pour Israël, c'est la reprise des négociations avec l'Arabie saoudite, c'est la constitution d'une zone de coprospérité et de défense contre l'Iran, parce que c'est ça qui va compter après. Et c'est dans le cadre de la reprise des négociations avec l'Arabie saoudite et des garanties de sécurité que les Américains devront donner pour qu'on puisse signer quelque chose avec l'Arabie, qu'on pourra résoudre le problème palestinien. Vous voyez, l'ordre des facteurs n'est pas le même. Alors voilà, c'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est une négociation, au fond, entre les Américains et les Israéliens, parce que c'est là que ça se joue. Il y a une divergence d'intérêts. Et puis surtout, il y a la question de Netanyahou. Biden veut affaiblir non pas Israël, mais Netanyahou. Donc il ne faut pas lui laisser obtenir une victoire trop forte. Mais Netanyahou, c'est Israël aujourd'hui. Il est le premier ministre légitime. Donc on voit bien que cette divergence tactique du point de vue américain, ces problèmes même personnels entre Biden et Netanyahou jouent un rôle dans cette négociation. Donc Rafah, c'est déjà la prénégociation de ce qui se passera après la victoire d'Israël sur le Hamas. Et tout ça va se jouer dans les jours prochains. Et on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler parce que rien n'est terminé encore.
Il nous reste quelques minutes, Daniel Haber. Vous avez évoqué la relation entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. On a l'impression qu'elle se tend fortement ces dernières semaines.
Non, mais elles ont toujours été mauvaises. N'oubliez pas que Netanyahou s'en est pris à Obama de façon spectaculaire et qu'ensuite il est devenu l'ami intime de Trump. Donc Biden, qui a été 8 ans le vice-président d'Obama, n'a rien oublié. Même si ça a été caché pendant quelque temps, le ressentiment de Biden vis-à-vis de Netanyahou est très puissant. Il s'exprime aujourd'hui. Mais il est Biden en contradiction avec lui-même parce qu'il faut qu'Israël gagne, sinon c'est les Américains qui perdent. Donc il se joue une partie au fond un petit peu complexe. Biden en plus est préoccupé par ses priorités de campagne électorale aujourd'hui et il visualise tout ce qui se passe au Moyen-Orient comme un problème qui l'empêche de mener sa campagne, qui le met en porte-à-faux avec son propre parti démocrate, on en a déjà parlé. Donc voilà ce qui se joue aujourd'hui. Et on sent que Bibi résiste et que pour l'instant, pour les Israéliens, il est important que ce soit Israël qui gagne, donc Bibi aussi qui gagne. Donc vous voyez, c'est une divergence d'intérêts politiques. Et là aussi, ça va s'arbitrer dans les jours et les semaines qui viennent à suivre entre nous de façon très précise.
Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.